je m'appelle Annie Faure, je suis enseignante depuis longtemps. J'ai travaillé plus de 20 ans à Nanterre. J'ai été enseignante maître formateur. Je suis arrivée à Mayotte en 2010. J'ai eu une classe de petite section en Petite Terre. Puis j'ai été formatrice pendant 4 ans à l'Institut de formation des maîtres de Mayotte. Et maintenant, je suis directrice de l'école élémentaire d'Otsimkoura. C'est une petite école, puisqu'il y a 7 classes. Il y avait 190 élèves inscrits à la rentrée cette année. Alors, les enjeux sont énormes, puisqu'on a vraiment un gros échec scolaire. En gros, de nombreux élèves arrivent au collège et ne savent pas lire. La difficulté, c'est que ce sont des élèves qui apprennent à l'école le français, doivent apprendre les différents domaines disciplinaires en français, et c'est la langue de l'école, c'est pas celle qu'ils parlent chez eux. Il y a deux langues qui sont parlées à Mayotte, le chimoré, qui est une langue d'origine bantou, et le kibouchi, qui est une langue d'origine malgache. Suivant les villages, l'une est plus forte que l'autre. Et jusqu'à présent, les langues maternelles n'étaient pas prises en compte à l'école, voire étaient complètement interdites. Mais il y a des enfants qui arrivent à l'école qui ne connaissent rien en français et qui se retrouvent balancés dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est une grosse violence. Et c'est difficile pour beaucoup d'apprendre à lire dans ces conditions-là. Alors Mayotte, ça fait partie de l'archipel des îles de la Lune. 3 îles sont indépendantes et appartiennent à l'Union des Comores. Et la 4e, Mayotte, a choisi de devenir française et est un département depuis très peu de temps. Donc l'Union des Comores est dans une situation très difficile. Il y a beaucoup de gens qui se réfugient à Mayotte parce qu'ils veulent se soigner ou ils veulent que les enfants aillent à l'école parce que c'est défaillant aux Comores. Et jusqu'à présent, les habitants de Mayotte, ils appartiennent à l'archipel des Comores. Et donc, ils se connaissent, ils sont cousins, ils ont toujours eu l'habitude de circuler. Et depuis le visa Balladur, ils ne peuvent plus. Donc, s'ils viennent à Mayotte, il faut qu'ils y viennent de manière irrégulière, en payant des passeurs et en venant en Kwassa. C'est donc des bateaux de fortune qui partent d'Anjouan, qui est à 60 km de Mayotte. Et d'ailleurs, il y en a plein qui périssent pendant ce voyage. Mais beaucoup de femmes et d'enfants viennent pour pouvoir être soignées. Et beaucoup, enfin moi, certaines mamans me le disent, pour que leurs enfants aillent à l'école et que du coup, ils réussissent dans la vie. C'est pour eux une chance de survie. Il y a des hommes qui sont là aussi parce qu'ils viennent travailler, même s'ils sont irréguliers. Ils travaillent, du coup ils sont moins bien payés et sans aucun droit, mais il y en a beaucoup qui travaillent. C'est toute une économie qui fonctionne en parallèle sur Mayotte. Et d'ailleurs, lors des expulsions, il y a des patrons qui ont dit que les chantiers ne pouvaient plus fonctionner parce qu'ils n'avaient plus d'ouvriers. Dans la fin de l'année dernière, des gens ont écrit au nom d'un collectif d'habitants prévenant les personnes qu'ils jugent étrangères que s'ils ne déménageaient pas, ils allaient les sortir de leur maison. C'est ce qu'on appelle le décasage. Et donc il y a eu deux rendez-vous des dimanches et ils sont allés chez les gens, chez ceux qui n'étaient pas partis, et ils ont cassé, détruit leur maison, et les familles se sont retrouvées à la rue, quoi. Et certaines ont dormi, il y a un carrefour pas très loin où ils ont dormi une quarantaine les uns à côté des autres avec rien pendant 2 nuits, ne sachant pas du tout aller. Et puis finalement, une association de ressortissants de l'Union des Comores a proposé qu'ils se réunissent tous sur la place de la République pour pour pouvoir être prise en charge. Et donc ils se sont retrouvés à Mamoudzou et ils y sont restés pendant 2 mois. Des enfants se sont sentis menacés parce qu'ils ont vécu la destruction de leur maison. Je pense qu'ils ont ressenti toute l'inquiétude de leurs parents. Et l'année dernière, pour avoir visité une ou deux classes, une enseignante parlait de la peur à propos d'un album jeunesse. Et des enfants ont dit, moi j'ai peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur quand on a cassé ma maison. Donc je pense que ce sont des enfants qui ont bien ressenti toute cette violence. On arrive à des situations paradoxales d'enfants qui vont à l'école, qui disparaissent, qui ont été cachés avec leurs parents pendant quelques mois, qui reviennent et qui essaient de revenir à l'école. Les mairies sont exigeantes, elles veulent des certificats d'hébergement, elles demandent de plus en plus de choses pour pouvoir inscrire les enfants à l'école. Et de fait, il y a maintenant plein d'enfants qui sont non scolarisés alors qu'ils devraient l'être de manière obligatoire, puisque sur le territoire français, nous scolarisons quelque enfant que ce soit de 6 à 16 ans obligatoirement. Ce n'est pas le cas à Mayotte. Alors moi, j'ai pris la direction de cette école en cette rentrée. J'ai fait la passation rapide avec mon collègue qui m'a expliqué que 2 ouvertures de classe étaient prévues et finalement n'auraient pas lieu parce qu'un certain nombre de gens avaient été expulsés. Donc ça veut dire plus d'une cinquantaine d'enfants qui ont disparu l'année scolaire précédente. Alors ce sont des enfants qui sont pour certains, la plupart, nés ici. Beaucoup ont des parents qui sont là depuis très longtemps, qui travaillent, qui sont soit en situation régulière avec une carte de séjour de plus d'un an, soit certains pour 1 an, soit certains en situation non régulière. Mais ces enfants, ils sont nés ici. Ils connaissent rien d'autre que le village dans lequel ils habitent. Et l'année précédente, beaucoup ont été expulsés, c'est-à-dire que leurs maisons ont été détruites, toutes leurs affaires ont été jetées, parce que des habitants, un collectif, a décidé qu'ils n'avaient plus leur place dans le village. Donc voilà, c'est des enfants qui étaient scolarisés depuis toujours à Tsimkoura, qui ont fait la maternelle puis l'école élémentaire, et puis qui se sont retrouvés chassés.
Archives Mayotte Première.
C'est un phénomène qui n'étonne plus personne ou presque à Mayotte. Les expulsions d'étrangers, expulsions faites par les natifs de l'île, excédées par l'immigration clandestine. Immigration qui serait, selon certains, à l'origine de tous les maux du département. Une chose est sûre, la cohabitation devient de plus en plus difficile. Gervais Nitcheux, Olivier Journia, Papino Zaidani.
À la périphérie de la commune de Chirongui, à une quarantaine de kilomètres au sud de Mamoudzou, un bidonville. Dans ces cases en tôle vivent une soixantaine de personnes. Les habitants de ces bangas se font appeler les exilés de Tsimkoura. En janvier dernier, ces étrangers et leurs enfants ont été expulsés du village de Tsimkoura. Youssouf est originaire des Comores. Il est en situation régulière et a 4 enfants qui ont la nationalité française. Sa famille a été contrainte de quitter en 30 minutes la maison où elle vivait depuis 21 ans.
C'est la chasse aux étrangers. D'ailleurs, c'est leur propos, c'est leur mot. C'est le mot du collectif. C'est chasser des étrangers dans le village.
L'opération d'expulsion d'étrangers des villages de Mayotte a commencé il y a plusieurs mois. Elle est menée par des Mahorais regroupés au sein d'un collectif baptisé Malaisie Mema, traduisez bonne éducation.
Qu'est-ce que vous ne voulez pas ici? Les vols, les gens qui descendent, les gens d'à côté là, c'est pas comme on les appelle, les Kwassa. Voilà, les voleurs, ceux qui ne respectent pas l'autrui, parce que je crois que chacun a sa limite.
À Tsangamboua, comme à Tsimkoura ou encore à Pourwani, les étrangers sont expulsés de leur case sous le regard des gendarmes. Ces derniers, dans la plupart des cas, ne réagissent pas. La préfecture de Mayotte devrait envoyer dans les prochains jours un courrier au maire des communes concernées par l'opération d'expulsion qualifié d'illégal.
Le jour de la rentrée, les parents d'élèves de la maternelle ont refusé que les enfants estampillés étrangers entrent dans l'école. Et donc la rentrée n'a pas pu se faire dans des conditions correctes parce que les enfants de l'école élémentaire n'ont pas pu accéder à leur classe. Les parents d'élèves ont empêché le déroulement de la rentrée, puis sont allés à la mairie faire savoir qu'ils ne voulaient pas d'étrangers dans l'école. Ces parents, qui sont des gens jeunes, des gens de 35, 40 ans, qui, pour avoir une place pour leur enfant, disent « Mais s'il y a trop de monde, il faut enlever ceux qui sont pas maorais, quoi. » Ce sont des gens qui s'affichent comme étant des citoyens et qui pensent que d'agir ainsi, Mayotte ira mieux. Et donc moi, je réponds par rapport à ma situation professionnelle d'enseignante de l'école française qui accueille et scolarise tout enfant de 6 à 16 ans de manière obligatoire, filles et garçons. Et donc, pour moi, peu importe d'où qu'ils viennent, mon travail, c'est ça. Et du coup, d'avoir cette position-là, les choses ne se sont pas envenimées. Je suis restée sur ce terrain et même les quelques parents que j'ai sentis un peu véhéments, ça s'est arrêté là. Évidemment que c'est pas leur logique, mais comme Mayotte française, ça a été quand même une très grande revendication, ça serait contradictoire pour eux d'aller contre courant. Donc ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas les arguments, même s'ils n'en pensent pas moins. Devant moi, ils ne peuvent pas le dire. Et le lendemain, je suis arrivée à l'école avec 45 minutes d'avance et il y avait des escadrons de gendarmes mobiles qui étaient là pour assurer la rentrée scolaire de tous les enfants, l'école étant celle de la République. Et donc, ils se sont déployés de chaque côté du portail. Et j'ai ouvert l'école. Et les enseignants, les enfants, les parents sont entrés entre deux rangées de gardes mobiles. C'était important, hein. Il y avait, je ne sais pas, 30, 40 personnes qui étaient là. Et leur responsable m'a dit que le préfet voulait que la loi soit respectée et que donc tous les enfants entrent. Pour une fois, j'étais d'accord avec la police qui voulait que la loi soit respectée, mais j'étais très choquée, c'est ma première rentrée en tant que directrice, qu'elle se fasse dans ces conditions-là. C'était spectaculaire ce dispositif de police, alors que c'est lorsque les expulsions ont eu lieu qu'il aurait dû se faire pour qu'on fasse savoir que c'était interdit de faire ce qui s'est fait. Et là, ça n'a pas été le cas. Il y avait des policiers, mais qui ont laissé faire, qui étaient là sans rien bloquer. Et je pense que pour les familles, pour les enfants, c'est des choses qui vont pas oublier comme ça, quoi. On parle de situation de violence à Mayotte, mais là, c'est l'institution qui a généré une violence que les enfants ressortiront peut-être beaucoup plus tard. Mais ils ne peuvent pas l'oublier, quoi. Enfin, je pense que c'est pas possible. Donc il y a une collègue qui est comme moi, Zungu, et sinon tous les autres sont maorais. Les hommes sont 5 sont d'anciens enseignants, donc titulaires depuis longtemps dans cette école, et 2 femmes sont jeunes femmes, toutes les deux, qui elles ont tout de suite réagi en étant choquées par ce qui se passait, qui étaient comme moi, qui arrivaient, et les autres qui sont pour lesquels je pense que la situation est plus compliquée, parce que ce sont des habitants du village de Tsimpura, là depuis plus de 20 ans. Ça ne doit pas être simple pour eux, mais en tout cas, je n'ai senti aucun rejet de leur part des familles décasées. Aucun. Alors, le jour de la rentrée, entre deux rangées de gardes mobiles, tous les enfants et leurs familles étaient dans la cour de récréation. Après un petit mot de bienvenue dans l'école de la République, l'école de tous, les enseignants ont appelé à tour de rôle les listes de leur classe. Et à la fin, sont restés quelques-uns, dont des gens qui avaient fait pas mal de bruit durant l'appel, à qui j'avais demandé de parler moins fort. Et donc, sont venues deux personnes pour me demander la liste des enfants de l'école, sous prétexte d'une organisation, d'une initiative à venir. J'ai dit que c'était absolument impossible que je leur confie les listes, mais que j'étais prête à faire passer une information qui concernait les familles, sous réserve que ce soit quelque chose de diffusable dans l'école. Je n'ai eu aucune information. Mais il y a eu insistance pour obtenir ces listes que je n'ai pas données, contrairement à d'autres collègues qui ont été plus sous pression que moi et qui se sont sentis obligés de le faire. Je l'ai vu le jour de la rentrée, sont agressés, insultés, dans une langue que je ne comprends pas. Et des mamans disent on doit partir parce qu'on n'est pas apprécié ici, parce qu'on nous insulte, parce qu'on n'a plus notre place. Il y a des mamans qui viennent me voir pour me demander de radier leurs enfants et pour aller ailleurs. Mais quel ailleurs? Et moi, je leur dis, tant que vous n'avez pas trouvé une place dans une autre école, les enfants restent ici parce que c'est là qu'ils sont scolarisés. Mais elles disent qu'elles vivent des choses très, très difficiles. Et d'autres personnes qui accueillent des enfants pour qu'ils restent à l'école, alors que les parents sont partis loin et ne peuvent pas les emmener à l'école tous les jours, mahoraises, disent qu'elles risquent des représailles parce qu'elles gardent chez elles des enfants non mahorais. Je suis intervenue dans une classe pour parler du harcèlement parce que j'ai entendu des choses qui faisaient que des élèves se sentaient rejetés par les autres du fait qu'ils n'étaient pas estampillés mahorais. Des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé il y a quelques années, quoi. Le message est passé auprès des maires et donc du coup auprès des administrés que ce qu'ils ont fait ne peut pas se reproduire, et heureusement, mais les parents, enfin je vois surtout des mamans, disent qu'elles ont toujours des insultes, même si elles n'habitent plus maintenant dans le village, elles habitent celui d'à côté, mais les enfants continuent à venir à l'école, et elles sont toujours dans la démarche d'essayer d'en partir parce que c'est difficile à vivre pour elles. Visiblement, elles reçoivent encore des pressions pour dégager. Eux, beaucoup sont venus à Mayotte parce qu'ils veulent que leurs enfants réussissent, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école. Donc ils sont très confiants par rapport à nous, très respectueux de l'institution scolaire. Et beaucoup sont venus me voir en disant « il faut qu'on s'en aille, je vais inscrire mon enfant ailleurs ». Et quand je leur dis « non, moi je vous donnerai le dossier que lorsqu'il y aura une autre place ailleurs », ils acceptent parce que ce qu'ils veulent d'abord, c'est que les enfants aillent à l'école. Travaillé plus de 20 ans à Nanterre. C'était pas comparable comme ça, puisque on a eu des familles, par exemple, qui étaient menacées d'expulsion. avec des enfants considérés comme sans papier. Là. Moi, je faisais partie de RESF et donc du coup, il y avait immédiatement un collectif qui se mettait en place autour de cette famille par rapport aux enfants, les autres parents qui, même si tous n'adhéraient pas, une majorité de parents qui étaient révoltés à l'idée que des enfants quittent l'école sous prétexte que leurs parents étaient en situation irrégulière. Et là, c'était des gens qui étaient en situation irrégulière. Ça n'a rien à voir au niveau de ce qui se passe ici. Parce que il y a de la réaction collective face à une décision qui semble complètement injuste. Là, on n'est pas dans la même logique. On se trompe de colère, quoi. On s'en prend à celui qui est juste à côté. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va reprocher encore et encore au prochain. C'est effrayant d'être là-dedans. Et c'est vrai que pour moi, ça a été violent parce que je savais ce qui s'était passé l'année dernière, mais je ne pensais pas être confrontée de manière aussi forte à ça.